are you today?
Spotzl, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 59, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Didier Poulmer. Alors, qui est Didier Poulmer? Si vous avez suivi l'actualité cycliste ces dernières semaines, vous savez probablement que Mavic est en redressement judiciaire. Mavic, c'est une entreprise française spécialisée dans les roues et plutôt emblématique du Tour de France, avec ses voitures d'assistance jaunes depuis 40 ans. Didier, quant à lui, s'est distingué par le passé en étant le conseiller de Lormann Odoo et en ayant accompagné le rachat de l'Olympique de Marseille. Et plus récemment, Didier a annoncé vouloir monter un dossier de reprise de Mavic avec d'autres partenaires. La date limite de dépôt du dossier était fixée au 2 juin, c'est donc l'occasion d'en savoir un peu plus. Sans plus attendre, Didier Poulmer. Allô Didier.
Oui, Richard, moi, voilà, j'ai pu terminer, mais comme il était un peu en retard.
Aucun problème. Bon, dis donc, le dossier a été déposé?
Le dossier a été déposé avant-hier.
D'accord.
16h39.
Alors, avant d'entrer dans les détails de qui tu es, ce que tu as fait avant et donc cette grosse histoire avec Mavic, j'aimerais savoir un truc. Comment on se sent après avoir déposé un dossier de sauvetage de ce type? Quel est le premier sentiment que tu as ressenti quand tu as déposé le dossier, quand c'était bouclé?
Tu sais, c'est drôle, c'est une question sympa parce que moi, ça me ramène aux années d'adolescence quand tu as des examens, tu as une montée en pression, tu as un stress, tu as tout ce que tu dois faire et donc le cerveau se met en ébullition. Mmh. Et après, au moment où tu accomplis ce que tu dois accomplir, il y a une espèce de relâchement, tu vois, de décompression. Et en fait, ce qui est marrant, la décompression, mais je savais que c'était le début de l'histoire qui commençait. Donc j'étais pris entre, voilà, la satisfaction que les équipes, parce que je suis pas seul à travailler, j'ai vraiment une équipe qui est formidable avec moi. Mmh. Donc j'étais pris entre la volonté de décompresser un peu, mais l'intime conviction qu'en déposant ça, c'était vraiment le début de l'histoire. Et ça, c'est un sentiment, tu vois, un peu ambivalent. Et, mmh. et comme j'aime bien, moi, j'aime le sport et donc j'aime la compétition, par définition, quand on aime le sport. En tout cas, c'est... Donc l'idée de se dire que la compétition allait débuter, c'est un truc qui m'excitait un peu, quoi.
Et vous allez célébrer, tu vas célébrer dans ton coin ou vous allez célébrer en équipe ou que...
non,
vous allez faire
tu
quoi
sais, c'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai notamment un garçon qui est un collaborateur qui s'appelle Alexandre Argenton qui m'a beaucoup aidé. Il a flingué un peu son week-end de 3 jours là avec le jour férié, donc je l'ai remercié. Alors, il a pris un émoticône qui est la petite bouteille de champagne, tu sais, qui s'ouvre là. Et oui. je lui ai dit non Alex, ce sera du cidre parce que ce n'est que le début en fait. En fait, tu déposes un dossier, ce n'est que le début. C'est loin d'être la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ en fait. Et donc je lui ai dit on va commencer par du cidre, on verra après pour le champagne, pour la ligne d'arrivée. Et je suis passé m'arrêter et acheter 2 bouteilles de cidre bio qu'on a bu au bureau avec une tarte aux fraises. On a fait un petit goûter. Mais clairement. En soi, c'est à la fois important parce que si tu fais pas, il n'y a pas d'enjeu, mais ce n'est juste le droit que tu te donnes d'être dans une compétition qui doit se terminer dans 3 semaines ou 4 semaines.
D'accord. On va commencer directement par une présentation parce que finalement, on a vu passer beaucoup de choses sur toi ces derniers jours, ces dernières semaines, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, il est maintenant l'heure de te présenter. Didier Poulmer, qui es-tu?
Écoute, je suis un père de famille de 4 enfants qui est 52 ans et qui aime le sport et dont la vie tourne beaucoup autour du sport, à la fois professionnellement puis à titre personnel en tant que pratique. Mmh. Mais je suis avant tout un père de famille avec mes quatre enfants qui sont l'élément majeur de ma vie. Et après, il y a le travail et il y a toute l'énergie que je mets à la fois dans la pratique de mon sport avec mes limites et mon âge et puis de ce que je peux faire sur le plan professionnel pour essayer d'aider le sport.
Au niveau sportif, c'est triathlon, je crois, c'est ça?
Oui, je fais du triathlon, oui.
Ouais. Sur quelle distance?
Idéalement, j'aimerais pouvoir dire des très très longues distances, mais je suis en fait essentiellement, ma course de prédilection, c'est un format M, qui est un peu le format olympique avec un peu de natte, 40 km de vélo et 20 km, et 20 km, 10 km de course, pardon. Et il m'arrive d'aller faire des incursions dans ce qu'on appelle le format Alpha Ironman, qui est un format avec un peu plus de natation, 90 bornes de vélo et 20 km de course. Mais je m'éclate bien sur le M, moi. C'est un format que j'aime bien.
Ouais. Et là, tu me parlais de ton âge et bon, en introduction, je te disais qu'on avait plus ou moins le même âge. En réalité, pas du tout. Je suis un poil plus jeune que toi et je suis un
Ouais,
petit
ça
peu à la
s'entend, ça
traîne.
s'entend, ça s'entend.
Merci Didier, c'est vraiment sympa. Et en plus, je suis un petit peu à la traîne niveau enfant parce que je n'en ai fait que deux pour le moment. Mais bon, on verra.
Le meilleur reste à venir.
Exactement. Ben là, ça va, c'est déjà pas si mal, hein, tu vois.
D'accord.
C'est cool. Qu'est-ce qui te gêne maintenant par rapport à ton âge? On parle beaucoup de la décroissance des performances, de la fonte musculaire, de la baisse de sécrétion d'hormones, de plein de trucs, de la motivation. Qu'est-ce qui te pose problème, toi, actuellement?
Écoute, pas grand-chose, parce que je me prends comme je suis et je me prends voilà, avec mes limites. Mais c'est marrant, je pense souvent à ça, parce que j'ai le grand plaisir et le grand privilège de m'entraîner en club avec le Stade français. Et c'est marrant, je me fais souvent cette réflexion-là, parce que si je n'avais pas été en club comme je le suis, je pense que jamais je n'aurais pu réussir à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est que le club a été vraiment un élément de stimulation, de motivation, d'entraînement, qui me donne aussi envie dans ma vie professionnelle de pousser le modèle des clubs et de faire en sorte que les clubs survivent, parce que je crois que c'est un élément y compris pour des jeunes, mais nous qui avons besoin, les personnes dans la vie active, d'avoir un moyen de te ramener à cette réalité-là. Je trouve que la présence en club est vraiment quelque chose de formidable.
Bon alors, t'es passé sur ton côté professionnel très très vite. Tu es avocat, tu as une carrière relativement brillante. Et pourtant, ces dernières semaines, quand on voyait les articles passés qui relataient ton action présente, j'ai noté que tu étais toujours présenté comme l'ex-conseiller de Laure Manaudou. Est-ce que c'est pas un petit peu vexant, considérant tout ce que t'as fait, d'être juste réduit à ça, l'ex-conseiller de Laure Manaudou?
Mais cher, c'est pas parce que tu es plus jeune que tu dois me taquiner et m'envoyer des
Alors,
petites
c'était pas fait
gratouilles comme ça,
exprès.
des petits poils à gratter. Écoute, c'est une très bonne question, parce que figure-toi que c'est quelque chose qui effectivement est un élément important de ma vie professionnelle, parce que quand les médias se font l'écho de ça, tu as raison, ça te ramène toujours à cette réalité-là. Je vais te dire, la réponse, elle est pour moi en deux temps. La première chose, c'est que oui, c'est effectivement toujours un peu frustrant. Quand tu fais des choses qui sont très différentes, qui sont très, très prenantes, et des fois avec des enjeux colossaux, avec des complications, avec des gens que tu aides, c'est un peu frustrant d'être ramené à une réalité. Mais je suis pas un enfant de cœur et naïf, et je sais bien que la puissance de la médiatisation, elle est souvent réductrice, hein, elle raccourcit la réalité. Donc le premier élément de la réponse est: oui, c'est vrai que c'est des fois un peu. Et j'aimerais pouvoir dire aux autres personnes que j'aide, bah, vous êtes tout aussi important qu'une championne olympique de natation, parce que c'est vraiment ce que je pense. Moi, j'ai des anonymes qui sont tout aussi importants que les grands et célèbres sportifs que j'ai eu la chance d'accompagner. Donc oui, il y a une frustration, mais fondamentalement, le vrai sujet pour moi, c'est que ça a été un privilège incroyable pour un garçon qui venait de nulle part, parce que je suis un petit gars de province, comme j'en existe des milliers. Ça a été un privilège incroyable de vivre ce que j'ai pu vivre aux côtés de ces grands champions. Donc je suis honoré que mon nom puisse être associé au leur. Et donc j'accepte bien ce caractère réducteur, parce que la fierté d'avoir été aux côtés de ces grands champions vaut largement la petite contrariété que ça peut m'amener sur le plan personnel.
Ok. Alors d'un point de vue purement technique, est-ce que tu aurais des écouteurs ou est-ce que tu peux
J'en ai plus
ramener...
maintenant.
Voilà, t'en as
J'en
plus.
avais, mais là j'en ai plus.
D'accord. Parce que du coup, le son changeait un petit peu. Il y a même eu
Ouais, bien
deux,
sûr.
trois coupures. Donc
Ah,
jusque-là,
d'accord.
ça va, c'est pas trop grave.
D'accord.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que signifie conseiller et gérer l'image d'un athlète?
En fait, les athlètes aujourd'hui sont au cœur de tout un système, c'est même un écosystème où leur image, elle est clé, puisque quand tu prends les choses très vite, ben, là où il y a de l'image, là où il y a de la médiatisation, là où il y a de la retransmission TV, il y a des enjeux économiques qui sont puissants. Et les sports qui sont malheureusement peu exposés, ben, il y a peu de sponsors, il y a peu de télé, et donc il y a moins d'argent, il y a moins d'enjeux. Mmh. Et le rôle, moi, de ce que j'ai pu faire, ça a été d'accompagner des athlètes dont l'image allait être un élément important, essentiel de la gestion de leur carrière. Et je les ai accompagnés pour savoir comment il fallait structurer, comment il fallait protéger, comment il fallait essayer de monétiser, c'est-à-dire de transformer leur image en source de revenus. Mmh. Et donc ce métier-là de conseil m'a permis de faire cette activité-là.
Donc, ce qui veut dire que tu, si j'ai bien compris, tu négociais ou tu décryptais les contrats publicitaires,
oui,
par exemple.
Je négociais des contrats de sponsoring, des contrats avec des marques, des contrats publicitaires, y compris quand tu es un joueur qui rentre dans un club, bah, tu négocies avec ton club. Maintenant, les clubs ont la possibilité d'utiliser ton image. Donc, je supervisais, je négociais, je structurais, je protégeais tout ce qui avait trait à l'image.
Est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait même déjà plusieurs années, est-ce qu'avec l'explosion des réseaux sociaux et la place de plus en plus importante des influenceurs, est-ce que cette notion de contrat pub et d'image a un petit peu bouleversé les athlètes, ou est-ce que ça a peut-être un petit peu baissé au profit des influenceurs?
Écoute, c'est un point très important et que tu soulèves là. Je l'ai vu moi, voilà, avec mes 52 balais, j'ai vu ça sur une vingtaine d'années, comment ça a pu changer la situation et la position des athlètes dans le sport. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, avant, bah, tu te montrais quand tu le voulais, tu te montrais quand tu pratiquais ton sport, mais tu organisais tes relations avec les médias, tu avais des interviews, tu avais des séances photos, tu avais même des vidéos, des documentaires, donc tu pilotais un peu les choses. Mmh. Aujourd'hui, comme toute personne est un média avec son téléphone potentiel, puisque tout ce qui est filmé sur ton portable, tu peux le diffuser dans le monde entier avec les réseaux, mmh. Effectivement, ça a révolutionné l'univers et l'écosystème dans lequel sont les athlètes, et ils se doivent aujourd'hui, s'ils veulent bien le faire en tout cas, de comprendre quelle est l'interaction entre eux, leur image et les médias, les sponsors, leur club, les annonceurs. Ils doivent aujourd'hui intégrer dans la gestion de leur image et de leur carrière une sorte de plateforme média. Ils sont devenus, en plus, bien entendu, de leur prestation sportive, qui est le cœur de leur métier, mais en plus de ça, ils doivent gérer aujourd'hui complètement la manière dont ils gèrent leur plateforme d'image. Et ça, c'est devenu un enjeu qui est devenu colossal, parce que, ben, que ce soit les patrons de clubs, les sponsors, tous ceux qui aujourd'hui sont des acteurs de cet univers, forcément, ils regardent aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, mmh. Ça leur a ajouté une corde à leur arc qu'ils se doivent de bien maîtriser.
Est-ce que ça a généré éventuellement une baisse de revenus pour certains athlètes de passer peut-être à côté de certains contrats au profit plutôt d'influenceurs, en fait?
Écoute, pas à ma connaissance, ça a plutôt eu comme vertu d'augmenter les revenus, parce que tu as maintenant des annonceurs qui pouvaient pas forcément se payer entre guillemets les services ou l'image d'un athlète, qui peuvent à travers les réseaux sociaux faire des collaborations plus ponctuelles, plus limitées. Donc ça a plutôt favorisé un nouveau marché, je dirais.
D'accord. Alors là, c'est plutôt une question que j'aimerais ou que je devrais poser à un publicitaire. Surtout que là, je regarde Mad Men en boucle en ce moment. Donc, imaginons que en quoi, par exemple, l'image de Teddy Riner influence positivement l'image d'une marque. En quoi mettre Teddy Riner à côté d'un micro-ondes ou d'une petite voiture, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, justement, avec la force et la puissance des réseaux sociaux, est-ce que ça a encore vraiment un sens de procéder de cette manière-là?
C'est une bonne question, ça. C'est une question de grand oral de Sciences Po, ça, presque. Je vais te dire, c'est une grande, grande partie de ma vie et de ma vie professionnelle et de mes réflexions et de mes travaux. C'est qu'en fait, si tu fais le tour des activités humaines, en tout cas celles qui sont publiques et qui ont un impact sur le public, et donc qui peuvent avoir un impact sur la manière dont on regarde les gens vivre ou les choses se dérouler sous nos yeux dans une société, il y a, je crois, très peu, et je crois qu'il n'y en ait pas vraiment, quand je dis très peu, je crois pas qu'il y en ait d'autres spectacles qui provoque autant d'émotions et qui rendent les gens et qui transportent les gens de la manière. Je mets de côté, bien entendu, toute la sphère de la vie privée, avec les naissances, les mariages. Je parle vraiment de ce qui est dans la société et ce qui est dans le partage de la vie entre les uns et les autres. Je crois que le sport est le principal événement, le terrain de jeu, lieu, qui provoque une émotion qui entraîne autant de conséquences chez les individus. Parce que tu vois des gens parcourir le monde pour voir leur sportif préféré, leur équipe préférée, pour se rendre voir tous les meilleurs athlètes du monde se s'affronter dans des Jeux Olympiques, dans des championnats du monde. Tu as un spectacle qui provoque une émotion qui est sans doute unique au monde. Alors on peut dire, et souvent les gens de la culture me disent non, Didier, mais attends, il y a quand même le cinéma, il y a quand même le théâtre, il y a quand même la musique. Oui, c'est vrai, ça je vais pas dire le contraire, moi je suis un fan de musique et de cinéma, mais à la différence de la musique et du cinéma, c'est le seul spectacle dont tu ne connais jamais l'issue. Alors qu'effectivement un film, une fois qu'il est fait, le réalisateur il en connaît l'issue, et donc dans les salles, s'il est dans la salle, il connaît la fin, et la musique c'est pareil, et donc toutes les formes de spectacles vivants qui sont préparés et dont on accomplit un scénario, un script, des paroles et de la musique, ben voilà, on a une forme de prévisibilité. Là, on est dans l'imprévisible absolu. C'est-à-dire que tu peux avoir 3 balles de match à Roland-Garros et perdre le match et perdre ta finale. Tu peux mener 3 buts à 1 à 5 minutes de la fin d'un match et tu peux te faire remonter, faire les prolongations et perdre. Tu as une dramaturgie qui est à mon sens unique au monde, encore une fois, toutes choses étant égales par ailleurs, et ça a donné au sport un intérêt incroyable. Alors, ça l'était déjà, j'allais dire, dans des temps très anciens, parce que ça permettait à des gens de se divertir, et la Rome antique ou les Grecs ont trouvé dans les jeux du cirque ou dans les gladiateurs des formes, et puis ensuite dans les Jeux Olympiques des formes d'activité physique qui allaient distraire les gens. Mmh. Et de ce moment-là, du moment où on a vu que cette activité physique pouvait distraire, et ben des gladiateurs ou des jeux du cirque, puis les Jeux Olympiques, puis aujourd'hui, ben on a des manifestations planétaires incroyables. Et c'est vrai que moi je suis fasciné par ça, parce que ce pouvoir émotionnel, il est juste sans commune mesure avec beaucoup de choses qu'on connaît, à tel point que les athlètes ont du mal des fois dans la reconversion, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu as été champion du monde dans ta catégorie, quand tu as gagné Roland Garros, quand tu étais, ils ont un peu de mal à retrouver le même niveau de d'adrénaline. Et donc, pour répondre à ta question, quand des marques qui vendent des produits ou des services se disent de quelle manière je vais essayer d'aller capturer un peu de cette émotion et comment je vais essayer d'associer cette émotion-là à toutes ces valeurs qui sont incroyablement puissantes pour les mettre dans une activité qui est entre guillemets bassement commerciale, bah oui, effectivement, ces valeurs-là et cette émotion sont un vecteur de communication, de promotion et pour véhiculer des messages qui est extrêmement puissant. Et on a même, alors là je te dis des choses qui sont, pardon, des fois un peu des généralités, que des gens qui connaissent bien le sport vont trouver un peu gentilles, mais il se trouve que tu as des études, et tu as notamment une étude qui a été faite à Harvard, qui te montre comment, c'était pour une joueuse de tennis, l'association entre, je crois que c'était Gatorade et la joueuse de tennis, quand tu fais des promotions, quand tu fais des publicités, tu as une corrélation entre la publicité et les ventes. Ce qui est vraiment incroyable, parce que là, ce sont des scientifiques, c'est les gens d'Harvard qui ont étudié ça, donc tu peux démontrer que le sponsoring a des répercussions concrètes, mesurables, par la captation de cette image, de cette émotion que les sportifs réussissent à créer dans le cerveau et dans le corps des spectateurs ou des téléspectateurs. Et donc, effectivement, ça, c'est toute une activité qui s'est développée dans le cœur de laquelle j'ai été et je suis encore. Et c'est fascinant parce que, alors, c'est à la fois très puissant. Et puis, à mon sens, et je te dis ça maintenant avec le recul, je le voyais pas quand j'avais une trentaine d'années, mais ça nous donne aussi une responsabilité, parce que je pense qu'il y a une éthique à avoir dans la manière dont on associe des choses qui sont aussi puissantes, aussi belles, aussi fortes, aussi transportantes, avec des activités qui sont purement commerciales et qui sont mercantiles, on va dire. Mmh. Et moi, par exemple, je te dis ça, c'est pas que des mots, c'est qu'à mon niveau, je me suis interdit, pendant les nombreuses années où j'étais à côté des athlètes, je me suis interdit de les associer avec des marques dont je considérais, moi, à titre personnel, qu'elles étaient ou nuisibles ou qu'elles ne faisaient pas la démonstration qu'elles étaient bonnes pour la pratique sportive. Donc effectivement, je n'ai jamais fait de contrat avec McDo, je n'ai jamais fait de contrat avec des fabricants dont je pensais, et je n'ai rien contre parce que il se trouve que je vais des fois dans cette belle marque aussi avec mes enfants, mais je ne pense pas que le sport puisse véhiculer des messages ou s'associer à des marques qui peuvent être en contradiction avec ce qu'est la pratique du sport. Ça, c'est ma perception. C'est ce qui fait, par exemple, je suis contre l'assouplissement de la loi E20, parce qu'à titre personnel, et là, c'est vraiment parce que dans le sport, tu as un certain nombre d'acteurs et d'organisations qui peuvent avoir des positions différentes. Moi, à titre personnel, je pense que tenir l'alcool, la cigarette loin du sport est une excellente chose. Et que faire le contraire irait à l'encontre de ce qu'est l'éthique et le développement même du sport.
Tu écoutes quoi comme musique?
Oh, je suis très varié en fait. J'écoute ce qui me plaît. J'écoute et donc je
fait tous à peu près la même chose. Hein. Souvent on écoute ce qu'on aime.
Ma vie a changé le jour où j'ai découvert l'appli Shazam parce que effectivement que je sois chez le dentiste, dans un commerce, dans la voiture en train d'écouter de la radio, c'est vrai que Shazam te permet d'avoir un vrai éventail. Donc j'écoute vraiment de tout. J'ai du moderne, j'adore Coldplay. Mais j'aime aussi la soul, j'aime des choses très variées, j'adore la musique classique, donc je suis pas un très bon connaisseur, mais j'ai des goûts assez éclectiques.
Bon, alors.
J'aime les belles voix, surtout. J'aime les belles voix. C'est pas très original, mais je suis sensible aux belles voix.
En parlant de belles voix, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un redressement judiciaire? On va attaquer dans le vif maintenant, et
ouais,
je ne te cacherai pas que je ne sais pas ce que c'est. Donc,
non, mais
je compte sur
toi.
C'est
normal, c'est technique. C'est une situation qui est qualifiée, sur le plan juridique comme, ce qu'on appelle la cessation de paiement, c'est-à-dire l'incapacité pour une entreprise de faire face à ses créances, à ses paiements au regard des sommes dont elle dispose, et caractérise la cessation de paiement. Et donc la cessation de paiement, c'est la situation qui déclenche un certain nombre de choses dans l'univers de la procédure, dont je ne suis pas moi un spécialiste, mais que j'ai appris, qui est que tu commences à être, tu rentres dans une période où tu as un tribunal de commerce qui devient un peu un organe de contrôle, qui va monitorer, qui va surveiller la manière dont la vie d'entreprise va se dérouler, qui peut aller dans un bon cas jusqu'à un plan qui te permet de maintenir la vie de l'entreprise. Dans un cas un peu différent, ça peut aller jusqu'à la vente de l'entreprise, à la cession de ses actifs. Et puis dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à la liquidation judiciaire, c'est-à-dire la fin et la mort de l'entreprise.
Pourquoi vouloir à tout prix sauver le soldat Mavic? Je reprends la formule exacte.
Tu fais du vélo ou pas?
Ça m'arrive, oui.
Et tu as déjà regardé tes roues?
J'ai des Mavic depuis que je suis tout petit. J'ai 42 ans, je fais du vélo depuis l'âge de 11 ans. Et les rares fois où j'ai pleuré, c'était pour du vélo. Soit parce que avais cassé un, soit parce que quelque chose pendant le tour se passait.
C'est fort.
Et donc oui, pour répondre à ta question, oui, je roule comme une
bourrique. Tu roules en Mavic, donc...
Non, je roule pas en Mavic, plus maintenant.
Tu roules pas je croyais que tu roulais en Mavic, donc je me disais, voilà. Tu as l'image de beaucoup de personnes. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai consacré une grande partie de ma vie professionnelle, et si ce n'est maintenant quasiment l'intégralité, à aider le sport et à essayer de jouer un rôle et en essayant d'être utile. Je l'ai fait au profit de sportifs, de clubs. J'ai eu un certain nombre d'actions qui ont été intéressantes. Et aujourd'hui, à l'heure où on nous annonce que la France devient ou va devenir une grande nation sportive, forcément, il y a un éclairage très fort qui doit, à mon avis, se diriger vers le monde du sport. Mmh. Et il se trouve que le monde du sport, c'est effectivement la partie visible de l'iceberg, qui est les athlètes, les compétitions, les clubs, les championnats, enfin tout ce qui distrait beaucoup les gens. Mais il y a une partie qui est cachée, mais qui est tout aussi importante, qui est la fourniture des équipements qui permettent au sport de se déployer et au sport de se pratiquer. Et c'est vrai que sans être moi-même un spécialiste du vélo, j'ai été assez frappé et un peu chagriné de voir que une entreprise plus que centenaire, parce que je crois qu'elle a 120 ou 130 ans, 1889, qui a révolutionné le sport parce qu'elle a eu un nombre d'inventions considérables, et donc elle a vraiment accompagné la pratique du vélo, et y compris la pratique au plus haut niveau, parce que Mavic, c'est juste des gens qui, dans le Tour de France, aident les coureurs à arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, c'est quand même juste des gens dévoués et dédiés à la pratique du sport jusqu'au plus haut niveau. J'ai trouvé qu'une entreprise centenaire qui a révolutionné le sport, le cyclisme, qui a été une référence absolue et qui, en plus, est un acteur d'un secteur dont on nous dit qu'elle va révolutionner, enfin, que ça va révolutionner la mobilité urbaine. J'ai trouvé ça terrible que cette entreprise se casse la figure et qu'on puisse la laisser tomber, quoi. Et c'est vrai que d'apprendre que cette entreprise-là était en relation judiciaire avec les risques que ça peut avoir pour elle, ça m'a, moi qui suis un observateur attentif du sport et puis de l'écosystème du sport, ça m'a donné envie de me rendre utile. J'ai pensé à ces salariés, j'ai pensé à ces coureurs qui ont cette tête de ma vie, j'ai pensé au Tour de France, j'ai pensé au rayonnement que le Tour de France a dans nos vies et au-delà, parce que c'est une très belle vitrine pour la France. Ben, je me suis dit, faut que j'essaie d'être utile. Et rien de plus, hein, comme je l'ai fait dans ma vie par ailleurs, j'essaie d'être utile. Et maintenant, j'ai l'opportunité d'essayer d'amener des gens avec moi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en essayant d'être utile pour cette marque, pour cette entreprise, pour ses salariés, pour des gens qui pratiquent le vélo. Donc, c'est juste la volonté d'être utile.
Je vais garder la rhétorique militaire. En essayant de sauver le soldat Mavic, t'as pas peur de sauver un troufion, si on peut dire ainsi, considérant qu'au niveau innovation, bah, si on lit un petit peu ce qui se passe sur le net, niveau innovation, c'est plus ça, c'est plus trop ça depuis quelque temps. Niveau SAV, c'est pas non plus trop ça. J'ai l'impression que des fois, quand on parle de Mavic, bah, il reste que les voitures jaunes sur le Tour. Alors que les voitures jaunes sur le Tour, ça fait 40 ans. Et le Tour a 110 ans. Du coup, ouais, t'as pas peur de sauver un troufion, quelqu'un qui n'en vaudrait peut-être finalement pas tant la peine que ça?
Et j'aime bien, Richard, parce que je trouve que c'est intéressant quand on commence à rentrer dans ce sujet-là. Parce que c'est quoi pour toi un troufion?
Ben je sais pas, j'ai été réformé. Je suis P4. Inadapté à l'autorité, m'ont-ils dit. Donc,
déjà, tu ne devrais pas utiliser cette référence parce que donc tu n'es pas visiblement le mieux placé pour savoir ce qu'est un troufion. Et je trouve que moi non plus. mais par contre, même un troufion, quand il part à la guerre, il a le droit d'être sauvé, quoi. Tu vois, il n'y a pas de.
Ça, c'est vrai.
Il n'y a pas d'échelle de valeur selon ton grade ou selon ta hiérarchie. Et pour rentrer un peu plus sérieusement dans le vif du sujet, je pense que Mavic est un peu à l'image d'un certain nombre de sujets que la société française a à traiter d'une manière générale, qui est qu'est-ce qu'on fait du savoir-faire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a été au sommet pour ne pas perdre ce qu'on a réussi à faire, et comment on vit face à la concurrence internationale qui est acharnée par rapport à des acteurs qui sont dans certains cas favorisés. Donc il y a un peu un élan entre guillemets, tu vois, français, quoi, en se disant moi je vois Shimano, j'ai beaucoup de respect, parce que tu vois c'est des entreprises tentaculaires, tu vois, on voit Nike, on voit autour de nous des entreprises qui ont réussi à formidablement se développer, être dans l'univers, dans le monde, rayonnant, etc. Moi je suis comme j'aime bien la compétition, je me dis pourquoi en France nous on n'aurait pas aussi nos champions, quoi. Pourquoi quand on a été au sommet et qu'on a un coup de mou, pourquoi on ne devrait pas être aidé, pourquoi on ne pourrait pas repartir mieux? Je suis intimement convaincu que quand tu as emmagasiné autant d'expérience, autant de savoir-faire, quand tu as un rayonnement comme est celui de Mavic dans le monde, parce qu'ils ont ce rayonnement-là quand même, moi je pourrais faire part d'emails que j'ai reçus des quatre coins du monde, bah je pense que ça vaut le coup d'aider le soldat Mavic, parce que je pense que ça vaut le coup à travers le soldat Mavic d'aider des gens de talent qui sont au sein de chez Mavic, qui peuvent peut-être continuer à produire des choses talentueuses, et ça m'intéresse beaucoup. Je pense que régionalement, territorialement, ce sont des entreprises qui rayonnent, qui font rayonner des territoires. Donc je pense que ça vaut le coup d'aider les territoires aussi indirectement en aidant ça. Je pense que dans la compétition internationale sportive et économique qui est autour du sport, d'avoir des acteurs puissants, eh ben c'est formidable. C'est vrai que ça ne te parle peut-être pas parce que tu es plus jeune, mais moi j'ai connu des Gitanes, j'ai connu des Merciers, j'ai connu des Peugeot, j'ai connu des vélos qui étaient des vélos emblématique, rayonnant de mon enfance, de mon adolescence, et c'est des marques qui ont été malmenées. Plus récemment, bah, t'as Time, t'as Look, t'as des boîtes qui ont été un peu malmenées. Bah, là, on se dit, le soldat Mavic, il est à terre, mais quand t'es à terre, t'es pas encore sous terre. Donc, je pense qu'il mérite d'être aidé.
Est-ce qu'il y a une petite forme de revanche, justement? Tu parles de Mercier, de Peugeot. On a évoqué ça dans un épisode précédent. Tu parles de Peugeot. Mais il y a aussi MBK, Gitane. Il y a plein de marques comme ça qui sont passées ad patres et dont on n'entend plus parler. Et ça serait une petite forme de revanche quand même d'essayer d'en aider une avant qu'elle rejoigne le cimetière des belles marques.
Écoute, l'esprit de revanche n'est pas du tout quelque chose moi qui m'anime. Donc je pense pas du tout à ça quand je me mets au chevet de Mavic. Non, je pense plutôt à Shimano moi. C'est-à-dire que je vois des étrangers conquérants, je vois des entreprises se lancer à l'assaut de nos pépites, parce que quand même Mavic reste une pépite en termes de référence et de marque. Donc je vois ça, c'est plutôt cette compétition qui m'anime. Je pense pas au passé. Je pense que ce qui est important c'est l'instant présent. Et puis c'est de se projeter et d'essayer d'être utile. Moi, l'utilité dans le sport, c'est important, parce que quand tu aides Mavic, tu aides les salariés de Mavic. Quand tu aides les salariés de Mavic, tu aides les coureurs. Quand tu aides les coureurs, finalement, tu aides l'industrie. Quand tu aides l'industrie, tu aides aussi les particuliers comme toi et moi. Parce que quand on fait du vélo, on est content d'avoir des bons produits. On est content de ne pas avoir une roue qui part en sucette quand on est dans une ascension. Donc c'est un cercle qui est vertueux, à mon sens. Et j'en crois beaucoup. C'est quelque chose qui m'est cher, c'est que quelquefois le haut niveau s'éloigne et peut-être est trop distant de la pratique de monsieur ou madame tout le monde dans lequel je me situe moi. Et un de mes chevaux de bataille, c'est de rapprocher ça, c'est de rapprocher la pratique de monsieur ou madame tout le monde dans le sport du haut niveau, de la vitrine. Et que quand tu éloignes trop les choses, quelque part tu perds de ce que chacun peut apporter à l'autre. Et moi, dans ce que je fais sur ma vie, tu l'as peut-être vu, j'essaie de rapprocher les cyclistes au sens large de cette belle histoire de cette marque, quoi. Richard, est-ce que c'est un problème si on poursuit, parce que j'avais une réunion à 16h30, je vois que je suis très en retard. Ça t'ennuie si on peut couper et reprendre après? Ça t'ennuie pas?
Pas de problème.
Okay.
Tu me rappelles
si
tout
je te
de
rappelle,
suite.
Moi je te rappelle si tu veux.
Dès que t'es prêt, tu m'appelles.
Ça marche, à tout de suite.
À tout de suite, Didier.
Merci.
Oui, Didier.
Ouais, allons-y. Alors, voilà. Je vais peut-être tout à l'heure être dans un tunnel. Si ça coupe, je te rappellerai dès que j'en sors. Hein.
D'accord. Non, mais on va y arriver. Hein. Ce qu'il faut dans notre job, ce qu'il faut dans notre job, c'est être positif et toujours trouver des solutions. Ça, c'est indispensable.
Dans tous les métiers, tu as tout à fait raison.
Bon, alors, hier, on s'est arrêté sur l'outil de production, sur sauver le soldat Mavic, etc.
Ouais.
Et sur la notion de garder un petit peu le flambeau français sur le Tour de France, qui est quand même vraiment la vitrine du cyclisme. Et est-ce qu'il serait pas une bonne idée? Là, pour le moment, ça te concerne pas vraiment, et peut-être que ça te concernera dans le futur. Mais est-ce que ça serait pas une bonne idée, en plus d'avoir des roues françaises, d'avoir des roues françaises posées sur une voiture française et également montées sur des vélos français? Parce que les roues Mavic sont pas fabriquées en France. Les voitures, c'est des Skoda, c'est tchèque, et les vélos, c'est des Canyon. Est-ce que ça serait pas cool de faire une vraie vitrine du savoir-faire français sur le Tour?
Écoute, c'est Richard, une très bonne idée. Ouais, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Je suis pas pour. Tu vois, enfin, il faut pas qu'il y ait des relents nationalistes ou quelque chose qui donne l'impression qu'on est franchouillard, etc. Mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'envie collective de montrer ce qu'on sait faire et de montrer qu'il y a des talents dans notre pays incroyables. Et c'est vrai que tu évoquais ça hier. Il y a ces marques de vélos qui ont disparu, qui ont été malmenées, des belles histoires. Si on peut aussi montrer que on sait en faire naître de belles, moi j'aime bien cette idée-là de montrer un savoir-faire et d'avoir pourquoi pas plus tard un ensemble qui soit une vitrine et qui montre qu'on sait faire des belles choses, qu'elles fonctionnent, que les cyclistes de haut niveau se régalent avec. Moi j'aime bien cette idée-là.
J'y ai pensé hier soir et j'ai malheureusement pas eu le temps de me documenter. Mais bon, les voitures Mavic, on les voit sur le Tour et sur les courses organisées par ASO, mais on ne les voit pas sur d'autres épreuves. Et j'aurais aimé fouiller qu'est-ce qu'on voit comme voiture sur le Tour d'Italie ou sur le Tour d'Espagne et comment sont secourus les coureurs. Je vais fouiller un petit peu de ce côté-là. Maintenant, imagine.
Mais par contre, les voitures sont sur d'autres courses que le Tour de France. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Elles sont
sur les épreuves organisées par ASO notamment. Forcément.
Exactement. Ouais.
Ouais, bien sûr. Et sur des partenariats, ça on va en parler un petit peu après. Mais bien sûr qu'on les voit ailleurs qu'autour et heureusement. Imaginons que l'offre soit acceptée. Comment on redresse une entreprise, tant au plan financier qu'en termes d'image et de confiance auprès des clients?
Oh, tu poses là des questions qui sont des très bonnes questions et qui appellent des développements qui sont importants. Moi, je prétends pas du tout, c'est pas mon métier, tu vois, pouvoir répondre de manière pertinente à cette question. Ce qui est évident à travers ce que j'ai pu en voir, c'est que il y a vraiment plusieurs chantiers. Il y a visiblement un chantier de l'innovation qui il y a, je crois, un vrai talent chez Mavic, parce que quand tu regardes l'histoire de Mavic et du vélo, c'est une succession d'innovations incroyables. Donc je pense que l'entreprise doit conserver cette dimension d'innovation. Tu vois, c'est je pense un élément fort de son ADN. Et là, bon, il y a du travail, hein, je pense. Il faut être capable de remettre le pain sur la planche, comme on dit, et de démontrer la capacité de Mavic de reprendre du leadership là-dessus. Il y a un chantier de relations avec tout le réseau de distribution qui, à mon avis, est un beau chantier, parce que tu as des revendeurs qui sont attachés à la marque. Alors là, je vais rentrer dans le tunnel. Tu vas me dire si on est ça coupe ou pas, mais je rentre dans le tunnel. Ouais. Donc il y a ce chantier de resserrer les liens et de faire en sorte que tout le réseau de vente soit mobilisé et Mavic à l'esprit quand il s'agit de parler de roof. Donc ça, moi, je sais que c'est un vrai chantier. J'ai eu le plaisir de voir remonter à nous pas mal de revendeurs avec des prises de position, avec des envies, tu vois, des commentaires, des critiques. Et on a pu mesurer que la relation entre Mavic et la distribution n'avait peut-être pas été à la hauteur de ce qu'a été la marque dans le passé. Donc je pense qu'il y a un vrai chantier là-dessus, un gros chantier. Tu es toujours là ?
Je t'écoute attentivement.
Ouais. Il y a ensuite la... Il y a le positionnement et la perception de ce qu'est maintenant le marché du cycle au sens large, avec une évolution, un rajeunissement des clients, de la consommation. Forcément, il y a la question du digital qui se pose, parce que le mode de consommation aujourd'hui d'articles, d'accessoires, de sport n'est plus le même qu'il y a 20 ans ou même 10 ans. Donc ça suppose de redéployer intelligemment un réseau qui passe aussi par le digital, qui est pas du tout exclusif ou qui met pas de côté le réseau physique, mais qui vit harmonieusement avec le réseau physique. Et ça c'est un vrai métier, hein. C'est pas le mien, mais j'ai eu la chance, moi, de parler notamment à des gens qui connaissent bien ça, et je sens bien qu'il y a un vrai chantier là-dedans. Il y a un vrai chantier. Et puis il y a la reconquête au-delà de ces points techniques. Il y a la reconquête du client, quoi. Il y a la reconquête de l'utilisateur. Il y a la reconquête du cycliste, du jeune au plus âgé, en passant par ceux qui s'y sont remis, dans lesquels je figure aussi. Et là, cette reconquête, elle est importante, parce que on sent que le cœur y est. Mais quelquefois, la raison, elle y est un peu moins, quoi, que la marque, elle doit aussi démontrer sa capacité à réentraîner le cycliste dans l'histoire de Mavic. Et ça, c'est un beau chantier aussi.
Est-ce que ça signifie que l'entreprise va être réduite en termes d'effectifs ou même de gamme de produits, de partenariats? Est-ce qu'on va assister à une sorte de resserrement un petit peu d'émail? Parce que là, ce que tu me dis, c'est, on dirait que Mavic, c'est un vieux, entre guillemets, un chandail un petit peu qui a été lavé maintes et maintes fois, dont les mailles sont un peu étendues. Maintenant, il faut resserrer toutes les mailles. Et est-ce qu'on se dirige un petit peu vers ça, finalement? Un resserrement des produits, des gammes, de plein de choses. Et même du partenariat avec le Tour, qui s'arrête dans deux ans.
Écoute, Richard, c'est encore une fois, moi, je suis pas le dirigeant de Mavic, ni l'actuel ni le futur. Je suis un soldat parmi les soldats, et j'essaie d'être dans l'armée des des soldats de ma vie, et donc j'ai pas la prétention de pouvoir dire voilà ce qu'il faut faire. Vraiment loin de là, je te livre juste des éléments de réflexion au regard du travail qu'on a pu faire en amont dans le dossier. C'est vrai que on sent qu'il y a le virage de la modernité à prendre. Quelle est la taille du Mavic nouveau? Est-ce que c'est un Mavic resserré? Il faut le craindre, parce que forcément j'utilise volontairement le mot craindre, parce que ça peut passer par des réductions de d'effectifs. Donc c'est pas agréable, c'est pas quelque chose, moi en tout cas, que je trouve facile à envisager, mais néanmoins c'est peut-être quelque chose qui est incontournable, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais il est clair que quand tu es challengé, quand le bateau tangue, c'est clair qu'il faut revenir sur ses bases, quoi. Et il faut être capable, sans doute aujourd'hui, de remontrer qu'on est un acteur incontournable de la roue. Et s'agissant du reste, ça va dépendre des moyens, hein, je pense. Si tu as les moyens de continuer des choses qui ont été entreprises dans lesquelles il y a eu des investissements, pourquoi pas. Tu vois, je pense aux diversifications qu'il y a pu avoir. Mais sinon, il faut être fort sur son cœur de métier, comme on dit.
Je reviens maintenant sur le projet vraiment tel qu'il est. On a ton partenaire de Arkea, dont le nom m'échappe.
Oui, Ronan Moal.
Voilà. Comment on réunit autour de soi une équipe d'experts en si peu de temps? Est-ce que ça veut dire que vous étiez au courant de la santé de Mavic et vous attendiez tapis dans l'ombre? Ou vous en parliez, enfin vous vous connaissez? Comment on réunit une équipe de tels experts aussi vite et pour monter un dossier de la sorte?
Écoute, c'est je crois, alors d'abord, non, on n'était pas à ta question, est-ce qu'on était tapis dans l'ombre et qu'on suivait ma vie depuis des années? Pas du tout. Pour te dire, c'était un samedi matin, j'étais dans mon lit, je crois encore, et comme il m'arrive quelquefois, et à tort, je m'étais mis sur mon téléphone, et je tombe sur cet article. Je pourrais même pas te dire dans quelles circonstances est-ce que je regardais, mais je tombe sur cet article qui indiquait que la société venait d'être mise en redressement judiciaire. Et je lis surtout cette histoire. Moi, ça me choque toujours parce que j'ai cette déformation professionnelle. Donc, dès qu'il y a des choses qui sont bizarrement faites et dans lesquelles on joue un peu avec les gens. Donc, il y avait cette histoire où on relatait que l'actionnaire n'était peut-être pas le bon. Moi, qui suis un avocat, quand un actionnaire n'est pas le bon, on dit, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut racheter une entreprise et disparaître ou faire apparaître quelqu'un d'autre? Donc, j'étais un peu alerté par ça. Et après, je me suis renseigné. Et j'ai regardé ça. Forcément, ça touche le sport. Donc moi, on le disait, c'était le début de notre entretien, mais mon ADN, c'est le sport. Je suis irrémédiablement associé à la compétition, au sport de haut niveau. Et donc, ça touche le sport, ça touche le sport de haut niveau. Donc j'ai regardé. Et c'est vrai que j'avais pas de connaissances particulières de ce qu'était l'histoire de cette entreprise, et je me suis documenté. J'ai eu la chance, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est un grand monsieur du vélo. Moi, je l'appelle même une légende du vélo. Alors c'est pas un cycliste, mais c'est un monsieur qui s'appelle Claude Droussan, qui a été longtemps à l'équipe et qui est notamment à l'origine de la création de l'étape du Tour. Donc c'est vraiment un grand monsieur du vélo. Il fait des ouvrages incroyables et magnifiques sur le vélo. Il en a fait un il y a peu de temps sur les plus beaux vélos du monde. Et j'ai parlé de Mavic avec Claude, et c'est lui qui m'a un peu expliqué justement l'histoire de Mavic. Et ensuite, après, c'est le réseau. Donc, pour répondre à ta question, c'est avant tout une histoire de réseau. C'est une histoire de passion, parce que les gens que j'ai autour de moi et que j'ai essayé d'associer à ça, c'est des gens qui sont passionnés de vélo. C'est des gens qui ont, je pense, dans leur secteur respectif, eu de très beaux parcours professionnels. Et ensuite, c'est effectivement une passion commune, une envie d'être utile, une envie d'aider. Donc, c'est un réseau de gens bienveillants et qui ont envie de sauver le soldat Mavic ensemble. Il n'y a pas eu, on n'a même pas parlé d'argent, on s'est pas dit, ah oui, mais qui fait quoi et ça coûte combien? C'est ce que je trouve formidable, et je pense que le sport est capable de ça. Je pense que ce qui se passe dans le sport, et on en discutait ensemble sur l'émotion, sur tout ce que ça drive, je pense que tu peux fédérer autour du sport et d'histoires sportives, que ce soit des belles histoires ou des histoires plus compliquées comme celle de Mavic, tu peux fédérer des gens bienveillants et qui ont juste envie d'aider, quoi.
Si tu me parlais maintenant de Socios, donc cette idée plutôt originale et même assez très originale d'ailleurs, d'utiliser finalement une crypto-monnaie pour engager les utilisateurs et associer les utilisateurs au redressement de Mavic.
Alors l'idée, si tu veux, elle est pas nouvelle parce que je pense que le sport est dans la sophistication ou la financiarisation du sport. Moi, j'ai pu observer ces dernières années une espèce de fossé qui se creuse entre des gens certes brillants et qui font des opérations, qui prennent le contrôle des fois de clubs, de sociétés, des gens qui font du sponsoring à très haut niveau. Donc il y a cette sophistication à laquelle j'ai contribué moi aussi à mon modeste niveau, mais d'un secteur qui avance et qui devient l'économie du sport aujourd'hui, c'est un secteur très 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 important. Mais cette sophistication, elle a tendance, à mon sens, quelquefois, et ce que je dis n'engage que moi, mais de créer un fossé ou de creuser un fossé entre ce qui se passe tout en haut et puis l'utilisation lambda, quoi, l'utilisateur lambda qui prend son vélo, qui met ses chaussures et qui va courir, etc. Certes, il y a toujours un très beau marketing et on voit de très belles choses, on nous raconte de belles histoires, mais la proximité, pour moi, il n'y a pas fondamentalement de différence entre une dame de 60 ans ou une jeune fille qui se lève le matin pour aller nager et leur manodou, elles font le même sport, quoi, ou leur manodou. Ce qui réunit un champion d'un pratiquant lambda, c'est la passion et le plaisir qu'il a de faire du sport. Et je pense que cette communauté d'intérêts, de sensations, de valeurs, on ne doit pas la perdre. Et je ne pense pas que la sophistication croissante de cette économie du sport doit faire oublier aux gens qui sont tout en haut, et dans lesquels moi des fois je me retrouve aussi par mon parcours professionnel, doit faire oublier que le sport au départ c'est un jeu, quoi. Et je suis très attaché moi à cette idée que avant d'être que le sport est devenu, c'est un jeu, quoi. Et ça doit rester un jeu. Alors c'est un jeu maintenant avec des enjeux colossaux, mais l'idée de faire rentrer quelque part les utilisateurs, les aficionados de la marque, les socios, pour reprendre une image, c'est aussi l'idée que ça appartient, que tout ce qui touche au sport, ça appartient un peu à tous ceux qui aiment le sport. Et c'est symbolique parce que c'est pas eux qui vont seuls sauver le soldat Mavic, mais par contre ils peuvent symboliquement jouer un rôle, et c'est aussi un moyen pour l'entreprise finalement d'avoir ses clients qui lui parlent en direct, quoi. Et ça, c'est de plus en plus compliqué parce que maintenant il y a des intermédiaires, il y a le digital, il y a beaucoup de choses. Et j'y voyais, moi, j'ai essayé de pousser l'idée dans les clubs de football. C'est pas toujours simple. Bah là, peut-être qu'on va y arriver. Je m'attendais pas forcément à le faire chez un équipementier sportif, mais pourquoi pas.
Alors, on va conclure parce qu'il nous reste à tous les deux 3 minutes. Et ça va faire une transition. Si ça marche pas dans le vélo, est-ce que tu pourrais essayer cette idée pour sauver le soldat alpine?
Mais tu regardes beaucoup les réseaux, toi, non?
Non. Non, et je mens très mal.
Écoute, je trouve, moi, ces histoires de marques et ces histoires de, il y a ce qu'on ne met pas toujours suffisamment en avant. Il y a souvent à l'origine des marques, des gens brillants, quoi, des gens de talent, des gens qui inventent, des gens qui créent. Et je trouve que l'histoire d'Alpine, elle est juste incroyable, quoi. Et c'est encore une fois, sans trop la connaître, je suis pas un historien d'Alpine, mais chaque fois que une marque, et derrière une marque, ce sont des hommes et des femmes, hein, parce que c'est pas une marque pour sauver une marque, mais chaque fois qu'on peut sauver des gens de talent, chaque fois qu'on peut rendre hommage à la mémoire de gens qui sont peut-être même plus là, mais qui ont été à l'origine d'eux, eh ben je trouve que c'est bien de le faire, quoi. Alors Alpine, c'est là, on est un degré de plus dans la complexité, parce que tu traites de marché automobile très complexe avec la concurrence qu'on connaît, les crises, etc. Mais moi, une Alpine électrique, je verrais ça bien travailler pour sauver Alpine et en faire la prochaine voiture de sport électrique. Alors ça, je trouve ça génial.
Bien, on va conclure. Par contre, tu ne vas pas couper à une petite tradition qui s'appelle la minute de solitude. Moi, je vais poser mon micro, je vais quitter la salle et toi, tu dis ce que tu veux pendant une minute, tu fais passer le message quand tu veux et quand tu as fini, tu raccroches. Ok ?
Et par contre, c'est une minute d'entraînement, tu veux dire?
C'est, non, mais si, faire, c'est, si c'est 40 secondes ou 1 minute 20, c'est pas grave. Mais à peu près, tu dis un petit truc, ce que tu veux. Je pense que tu as un bon message à faire passer que tu maîtrises. Donc voilà. Ouais. Didier, merci pour le temps. Bon courage pour ce qui t'attend. Et à très très bientôt sur le vélo.
Merci à toi, Richard.
Salut. Merci.
Merci. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ce beau projet de sauvetage de ma vie. J'espère que pour ceux qui auront écouté, je vous aurai pas ennuyé, et ceux qui ont envie d'aider, ben vous êtes les bienvenus sur LinkedIn ou même on a mis écrit un email sur contact@lesangjaunetoutattaché.com. Donc n'hésitez pas. Voilà, la porte est toujours ouverte à toutes les bonnes idées, à toutes les bonnes volontés. Et puis je voulais remercier Richard. Je crois que c'est important de qu'on ait l'opportunité d'échanger et de donner un peu un morceau de vie. Donc j'ai été ravi de le faire, j'en suis flatté, même honoré. Moi je suis comme beaucoup de professionnels, je devrais rester dans l'ombre, mais l'histoire des fois m'amène un peu sur le devant de la scène. Donc j'en profite pour dire toute l'importance qu'il y a d'aider le sport, de le pratiquer. Et donc à tous ceux qui écoutent, je ne peux que les inviter à continuer à faire du sport. Voilà, bon week-end à tous et au plaisir de te reparler, Richard. Au revoir.